Alors, je vais résumer les 20 pages que j'avais écrites parce que il ne s'agit plus d'abuser de votre temps. Et dans cette communication consacrée à cerner la personnalité du créateur artistique, en supposant que ses traits soient au moins partiellement universels, le point de vue n'est pas celui d'un sociologue, n'est pas celui d'un historien, c'est celui d'un compositeur qui se réclame plutôt de l'empathie que d'une objectivité scientifique. Cependant, je partirai des principales références grecques antiques de façon à mieux évaluer ce qui, après deux millénaires, semble prolonger cet héritage et ce qui s'en éloigne aussi. Je crois qu'un premier indice permet de préciser quel regard la Grèce a porté sur ses artistes depuis l'époque où elle a inventé, parmi beaucoup d'autres valeurs culturelles, une particularité originale et destinée à une forte résurgence après de nombreux siècles, je veux dire la signature artistique. Hors de Grèce, il est vrai, quelques cultures antiques nous ont légué des noms, mais en très petit nombre, comme Imhotep en Égypte, Hiram en Phénicie, Amos en Syrie, Lao Tzu, mais rien ailleurs qu'en Grèce n'est comparable à ces signatures de sculpteurs qui ont survécu à leurs œuvres depuis le 7e siècle avant notre ère, qui se trouve être l'époque où Alcée, Sappho, Archiloque inventent en même temps l'expression individuelle. Des sculpteurs comme Miquiades, Archermos de Chios, Iphicartides de Naxos signent leurs œuvres, qu'évidemment nous n'avons pas conservées, et un peintre nommé Boularchos fournit à cette époque au riche roi Candaule de Lydie un tableau guerrier. Et un siècle après, on trouve les premières signatures de céramistes, comme celle de Sophilos. Pourquoi est-ce que cela me paraît très important ? Bien parce que j'y vois la naissance d'une pensée individuelle et d'un certain prestige personnel de l'artiste, malgré tout ce qu'on a pu entendre et qui est juste aussi. C'est une personne, l'artiste, qui est en train de se manifester en tant que telle, et je crois que c'est un apport capital. La Grèce n'a pas inventé les arts, mais elle a inventé l'individu artiste. Sur la chronique de Paros, qui est un marbre gravé en 264 avant notre ère, quelques dates repères ont été choisies pour résumer ce qui comptait alors, aux yeux de certains Grecs, dans leur propre histoire. Et on y trouve presque à égalité des références d'une part aux grands hommes ou aux grands événements politiques et d'autre part aux grands poètes et musiciens. Et deux choses me frappent. La première est l'absence totale de distinction entre le légendaire et l'historique. Le chroniqueur précise historiquement ce qui pour nous flotte dans le temps fabuleux des origines. À l'en croire, Deucalion, rescapé du déluge, est arrivé à Athènes en 1529, avant notre ère, bien entendu. Les Amazones ont attaqué le royaume de Thésée en 1256, et la prise de Troie date de 1209. Ce sont là des événements qui, pour lui, sont aussi historiques que la mort de Timothée, qui est survenue il y a moins d'un siècle. Et apparemment, cette mort est un repère de semblable importance pour un Athénien. Second sujet d'étonnement, dans la chronique de Paros, où il n'est fait mention ni de Solon ni de Périclès, la fin de la partie conservée de l'inscription mentionne Platon et Aristote, mais il n'accorde aucune place aux peintres, aux sculpteurs ni aux architectes, ce qui évidemment limite la portée de l'invention de la signature, mais qui pose un vrai problème. Autre différence avec notre tradition de l'autonomie des valeurs esthétiques, le culte athénien de la beauté n'est jamais séparé des valeurs morales avec qui il fusionne dans l'idéal de la kalokagaphia. Dans l'Antiquité, le champ sémantique du mot « art » ne recoupe donc pas du tout le nôtre, et beaucoup d'autres intervenants l'ont justement observé. Et chez nous, quel est le lien entre l'art et la morale ? À part le rap, je n'en vois pas beaucoup. Socrate, fils de sculpteur et peut-être lui-même sculpteur raté, et persuadé que le choix de la philosophie est beaucoup plus authentique que celui de l'art. Platon congédie poliment les artistes et même Homère, dans la République idéale, qu'il n'eut heureusement pas le loisir d'expérimenter. J'allais ici citer le début de la biographie de Périclès par Plutarque, mais Madame Lambraki-Placa l'a déjà fait à l'instant et ce n'est pas la peine de le répéter. J'ajouterai seulement deux petites nuances. L'artiste du Moyen-Âge n'est pas toujours totalement anonyme. Il y a un artiste dans l'art roman qui a eu l'audace de signer ses sculptures. C'est le fameux Gislibertus d'Autun. Et dans l'Antiquité, eh bien, dans la tradition chrétienne, il y a tout de même un saint de première dimension qui était un peintre. C'est saint Luc à qui on doit le premier portrait de la Vierge. Cette assimilation dont parle Plutarque de l'artiste avec l'artisan et qui sont tous deux voués au commun mépris d'une société esclavagiste qui dédaigne le travail et qui préfère aussi les théories aux expériences, paraît assez éloigné de nos critères modernes. La Grèce ne semble avoir connu aucun ouvrage d'histoire de l'art, aucune biographie d'artiste, hormis celle des poètes. Et pourtant, tous les témoignages confirment l'importance qu'Athènes accordait aux arts. Platon et Aristote ont beaucoup réfléchi sur eux, mais sans s'intéresser à la personne des artistes. Et même Pline l'Ancien ne nous parle des peintres qu'à l'occasion des matériaux dont ils ont besoin. En français, la distinction entre les arts mécaniques et les beaux-arts ne date que du XVIIe siècle. Et si, pendant des siècles, il allait de soi que tout artiste devait maîtriser une ou plusieurs techniques, une évolution s'est faite pour l'éloigner peu à peu davantage des qualités artisanales, sans qu'il retrouve pour autant tout le prestige qu'il avait eu chez les Grecs. Je doute qu'aujourd'hui, un marbre qui citerait les événements essentiels de la civilisation depuis un millénaire aurait le même type de répartition des rôles entre les hommes politiques et les artistes. Les premières leçons de cette excursion dans le monde antique sont complexes. Les Grecs, qui n'avaient à proprement parler ni dogme ni théologien, s'en sont remis aux poètes, et en particulier aux poètes tragiques, pour exposer et discuter par la parole, le chant, la danse et la mise en scène les fondements de leurs croyances. Ils ont placé très haut ceux qu'ils jugeaient les meilleurs, mais sans d'ailleurs beaucoup s'intéresser à leur personnalité. Pourtant, peu à peu, la liberté individuelle a occupé le devant de la scène. Une victoire au grand concours panhellénique a peu à peu cessé d'être avant tout celle d'une cité et de ses divinités protectrices pour devenir un titre individuel prestigieux. La cérémonie tragique a fait place à un répertoire littéraire profane, admiré, enseigné, recopié, mais de moins en moins représenté. Et cette évolution d'une fonction sacrée vers des plaisirs profanes n'est pas sans analogie avec ce que, de la Renaissance à Wagner, l'Europe a tendu à faire des arts, un substitut de plus en plus autonome, récupérant pour lui-même le sens du sacré, au service duquel il n'avait d'abord joué que le rôle d'auxiliaire. Un autre trait antique préfigure toutefois cette métamorphose, le culte dont certains artistes ont fait l'objet. Un des premiers non-conformistes et un des plus radicaux, Archiloque, a paradoxalement eu, après sa mort, dans son île natale de Paros, un sanctuaire autour de sa tombe. D'autres tombeaux de musiciens, comme celui de Sappho, semblent avoir connu un culte analogue. Et encore 800 ans plus tard, l'empereur Hadrien, fervent archéologue, consacrait à ce tombeau de Sappho un distique. Arion de Métimne, inventeur historique du dithyrambe, a lui aussi fait l'objet d'un culte. Une chanson dénoncée au IIe siècle par Clément d'Alexandrie comme idolâtre le célébrait encore 700 ou 800 ans plus tard. La transformation d'une vedette en créature mythique n'a pas disparu avec la culture antique. En 2010, certains se refusent à croire à la mort de leur idole, Michael Jackson. On peut dire aussi que l'apparition de la signature a ouvert une ère de tension continuelle entre les artistes et leur milieu social. D'une part, on proclame la reconnaissance du mérite personnel des artistes jugés grands. D'autre part, on regrette qu'ils aient de moins en moins le souci d'exprimer les valeurs collectives. La compétition s'exacerbe, une surenchère novatrice se développe, et ce n'est plus la cité qui triomphe, mais le vedettariat, orgueilleusement affirmé. Athénée nous a conservé les aphorismes provocants lancés par un moderniste exceptionnel, le compositeur Timothée. Ou caïdo tapalea, que nagar amacriso, neos osefs vasilevi, το παλεύειν κρόνος αρχών, απίτω μουσα παλιά. Je ne chante pas ce qui est vieux, car ce qui est nouveau marque un progrès. C'est la jeunesse qui règne avec Zeus, tandis qu'au vieux temps, c'était Cronos qui commandait. Adieu la vieille musique. La question amenée par ces rappels historiques est dès lors la suivante. L'admiration et l'exécration auxquelles les artistes ont souvent été soumis simultanément sont-elles inhérentes à leur fonction particulière ? Faut-il croire, par exemple, que l'image romantique de l'artiste maudit parce qu'original n'est qu'un des multiples avatars de cette permanente ambiguïté ? Le nihilisme artistique que l'on a vu prospérer au XXe et au XXIe siècle est-il l'héritier du geste extrême d'Hérostrate, l'incendiaire du temple d'Éphèse ? La provocation est devenue l'expression habituelle, presque un devoir, de l'innovation artistique. Purement humoristique ou gravement nihiliste, l'usage des monochromes ou du vide en peinture en est un exemple significatif qui remonte au moins au XIXe siècle. Le plus fidèle héritier de Marcel Duchamp est sans doute Pinoncelli, qui, à deux reprises, est allé dans des musées souiller et casser des répliques de son dérisoire urinoir exposé en 1917. Il reste que le répertoire des gestes disponibles n'est peut-être pas plus infini que celui des formes et que la plupart des actions qui se veulent aujourd'hui transgressives ont un air de déjà-vu assez décevant. L'artiste du XXIe siècle est donc dans une situation particulièrement difficile. Contrairement à la Grèce antique, les pays se réclamant de la démocratie ont assez largement aboli les censures religieuses et morales, mais celles-ci ont été souvent remplacées par des objectifs commerciaux qui peuvent compromettre encore plus ces valeurs authentiques. Le profil de l'artiste demeure empreint de contradictions. Bricoleur, et savant, individualiste mais avide de reconnaissance, créateur de sensibilités nouvelles mais peinant à se faire entendre, capricieux mais obstiné, enthousiaste ou dépressif selon les jours, il est vraisemblable qu'il présente encore beaucoup des traits que lui attribuait Aristote en les assignant à un tempérament dominé par l'habile noir. Toute culture se définit par un équilibre spécifique entre innovation et transmission. Après avoir beaucoup innové au XXe siècle, sans bien réussir à transmettre, le nouveau siècle, par un excès inverse, se consacre maintenant beaucoup à la retransmission indéfinie des mêmes recettes. J'ai évoqué dans le texte complet de ma communication une troisième voie pour sortir de ces impasses. Si plusieurs des attitudes artistiques incarnées dès l'Antiquité grecque se retrouvent aujourd'hui, ce peut être non pas une occasion de se référer à ce passé comme à jamais exemplaire, ainsi que le fit la Renaissance, mais au contraire, comme un indice parmi d'autres incitant à contester la toute-puissance des évolutions historiques. Une des conséquences de l'uniformisation des cultures est, ou va être, une relative stagnation. Un des moyens d'échapper à cette pseudo-fin de l'histoire est de se soucier beaucoup moins des dimensions historiques et plutôt d'inventorier précisément ce qui ne dépend pas d'elles. L'intercompréhension des cultures conduit à identifier d'abord ce qu'elles ont en partage pour mieux apprécier ce que chacune a construit d'original sur les grands lieux communs. Si l'humanisme grec doit être révisé dans un sens très élargi, il n'a pas pour autant perdu toute signification. La première dette que nous lui reconnaissons est sans doute d'avoir justement permis de tels questionnements extrêmes en donnant le plus ancien exemple. Une définition universelle de l'artiste ne peut probablement pas s'imposer. Mais l'inquiétude, exprimée à travers des éléments symboliques, le goût d'une aventure à la fois spirituelle et sensorielle, la puissance transcendante de l'imaginaire, sont autant de traits qui trouvent en tout lieu et à toutes époques à s'illustrer. La table rase historique que tout un courant des arts du XXe siècle a rêvé d'opérer pour se livrer à des innovations absolues est peut-être une utopie superflue si notre psychisme nous fournit déjà spontanément certaines données rudimentaires antérieures à toute routine et si la sollicitation esthétique, loin d'être d'emblée analogue à un langage, trouve une de ses sources dans les profondeurs animales de ce psychisme. J'ose employer ce terme après avoir montré la présence chez certains animaux de phénomènes culturels, plus particulièrement musicaux. Tout le problème est alors de faire la différence entre un archétype et un cliché, et d'innover avec l'archétype plutôt que contre lui. J'ai déjà écrit 2 livres sur ce sujet, il faudrait beaucoup de temps et beaucoup d'autres communications pour en faire le tour. Mais je terminerai plutôt avec un bel exemple où un grand poète n'a pas hésité à reprendre un lieu commun comme l'allégorie de l'espérance représentée par un navire. J'ai été un des premiers traducteurs d'Elitis en français et lors de ma première rencontre en 1964, je crois, je lui avais récité un de ses poèmes où un passage disait « Vipso en astoma namupi uranos » Cette apparente simplicité signe pour moi la persistance d'une certaine grâce qu'on appelle l'atticisme. Merci.